Je suis Amel Léger et j'accompagne les femmes épuisées ou en burn-out à se reconnecter à la joie d'avoir un job épanouissant. Donc ça va d'avoir un job épanouissant à avoir un quotidien en fait épanouissant dans lequel on intègre la notion de travail et qu'on se l'approprie en fait. J'ai fait 2 burn-out dans ma vie professionnelle. J'ai bossé à peu près pendant une dizaine d'années en entreprise après avoir eu un parcours que j'appelle un peu classique d'école de commerce et... Mon domaine à moi, c'était le marketing à l'époque, et puis ça s'est transformé en gestion de projet, qui est complètement fou d'ailleurs, parce que maintenant je sais que c'est vraiment un domaine qui est très loin de mes meilleures compétences et puis de qui je suis. Toujours est-il que j'ai fait deux burn-out, et que d'un moment, au bout du deuxième en fait, pendant même le deuxième, qui était un burn-out, mais qui était surtout un moment où j'ai décidé que j'en avais marre de cette vie-là, et qu'après tout, j'allais essayer de vivre mieux et de trouver des manières de vivre mieux en étant un peu plus épanouie. J'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais faire, mais j'avais cherché, depuis bien longtemps d'ailleurs, j'avais cherché à me trouver une occupation, une passion qui me permettait de m'épanouir, mais qui me permettait aussi de gagner ma vie. Après avoir passé 2 ou 3 ans dans une grosse boîte où j'avais ma place dans un bureau, où je faisais une chose et où c'est tout ce qu'il fallait que je fasse, je me suis entendue dire que là, j'avais envie de trouver un boulot où je voulais mettre ma patte. Et pour moi, ça voulait vraiment dire que j'avais envie de faire mes preuves et que j'avais envie de prouver que j'étais capable de je sais même pas quoi d'ailleurs. Bon, je sais pas si je l'ai prouvé au final. Mais en tout cas, voilà, c'était ça que j'avais envie. Je pense qu'ils ont vu en moi un potentiel de travail, un potentiel d'innovation et tout.
C'est là que tu t'es surpassée et que tu as... énormément donné.
Voilà, c'est à cet endroit-là que j'ai beaucoup trop donné. Et en fait, très rapidement, en commençant ce boulot, au bout d'une semaine, je commençais à déjà être en retard par rapport à ce que j'avais à faire, par rapport à ce que moi, je m'étais mis comme objectif. Ça, c'est très clair que c'était moi qui m'en mettais trop. Et au bout de 2 ans, je crois à peu près, j'ai fait mon premier burn-out. Je rentrais de voyage et... à la période de mon anniversaire, donc c'est peut-être un moment émotionnellement un peu particulier. En fait, je passais mon temps à pleurer et à dormir, d'épuisement, voilà.
Tu avais conscience que c'était un burn-out là, à ce moment-là ?
Non, pas du tout. Je pense que la conscience du burn-out, elle est venue après, une fois que j'en suis sortie. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je retrouve chez les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, c'est quand on est dedans, on est dedans. On a l'impression que vraiment la roue du travail est autour de nous et il n'y a que ça. Et on ne voit pas du tout que la vie a d'autres aspects que ce travail-là, en fait. Donc là, mon entourage m'a dit, Amel, je crois que peut-être ce serait bien que tu ailles voir le médecin quand même. Le médecin m'a arrêté pendant 2 semaines en me disant, vous allez à la campagne et vous ne passez pas par la case départ, là. Vous retournez chez vous, vous faites votre valise et vous partez.
C'est vrai que je me souviens que tu avais écrit sur ton site, j'ai décidé d'arrêter de me battre contre les autres pour plutôt dépenser mon énergie pour moi. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience.
Alors non, elle n'a pas été à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça a été vraiment ce moment-là qui a été un point de transformation. Ça a été ça pendant mon deuxième burn-out. En fait, le moment que tu décris, il est arrivé quand on m'a proposé de prendre encore plus de responsabilités à mon travail, qui me paraissait vraiment là, au-dessus de mes forces. Et je suis retournée voir le médecin et j'ai passé ma première semaine d'arrêt... en essayant de trouver alors des avocats, des associations d'accompagnement aux salariés. Sauf qu'à la fin de la semaine, ce fameux moment est arrivé parce que je me suis dit « mais j'ai encore moins d'énergie qu'en début de semaine, j'ai passé mon temps à raconter mes malheurs là et je baigne là-dedans et si je vais au prud'homme, mais j'en aurai pour 3 ans, pour 5 ans, je ne sais même pas si je vais gagner. Et après, qu'est-ce que je ferai si je gagne ? En quoi ça va m'aider ? Et ça va pas me répondre à la question de ce que j'ai envie de faire finalement. » Donc c'est à ce moment-là que vraiment je me suis dit, au lieu de me battre et d'utiliser le peu d'énergie qui me reste à me battre contre un système ou contre des employeurs ou contre je ne sais qui, eh ben si je mettais cette énergie-là pour moi. Et là, il fallait que je retourne voir le médecin pour qu'il me prolonge mon arrêt. Et j'ai passé, je crois qu'il devait me rester un quart d'heure, une demi-heure avant d'aller voir le médecin. Donc j'ai commencé à ouvrir mon ordinateur et à chercher et à m'autoriser à mettre des mots et à me dire, mais en fait, mais qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et évidemment, c'est le développement personnel qui est arrivé et j'ai fait des super découvertes. Et c'est là que ça a commencé vraiment à changer.
Tu as décidé de te faire accompagner pour te lancer toi-même dans l'accompagnement pour développer ton activité.
Et ben, ça s'est fait un petit peu tout seul, c'est-à-dire que dans les recherches que j'ai faites à ce moment-là, j'ai trouvé une femme qui avait un parcours un peu similaire au mien, qui avait bossé, qui avait fait aussi une école de commerce, qui avait bossé aussi en entreprise, puis qui avait tout quitté, et puis qui s'était mise à son compte en fait pour faire du coaching, pour faire des massages. Donc toutes les séances avec elle ont été super, j'en ai pas fait beaucoup. Disons que j'ai retrouvé le début du chemin pour moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais pris un chemin qui était finalement très éloigné de moi, l'école de commerce, le boulot en entreprise, etc. Alors que j'avais déjà des choses à l'intérieur de moi qui me plaisaient et que j'avais touché du doigt des choses qui étaient vraiment essentielles, notamment pour moi dans la danse. Et du coup, que c'était par la danse et parce que j'avais touché du doigt à cet endroit-là que le chemin allait recommencer pour moi. Donc mon dernier burn-out, je l'ai fait à peu près au mois de février, il me semble, et j'ai quitté mon entreprise définitivement fin juin. Entre-temps, je m'étais formée au coaching, voilà.
Donc là, tu t'es complètement lancée dans le coaching, tu accompagnes des personnes, notamment des femmes, en burn-out, qui sortent d'un burn-out. Avant de parler plus spécifiquement de ce sujet, c'est vrai qu'on est dans un climat actuellement où on ressent un mal-être au travail. En tout cas, on peut parler de la France pour le moment, on peut aller au-delà des frontières, où on sent un très grand stress. Il y a vraiment, ce sont les salariés qui sont le plus touchés au niveau du stress. On a même mis en place des espèces d'arsenaux techniques qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux. Mais les habitudes semblent rester. Et... Donc soit nous avons des salariés qui connaissent une course au surpassement, voire qui sont dans la quête d'une reconnaissance par leur hiérarchie, ou des employeurs qui cherchent constamment des moyens d'obtenir des objectifs élevés de leurs salariés, avec du harcèlement par exemple. Et du coup, tout ceci peut conditionner le burn-out. D'après toi, d'où vient ce malaise grandissant en France et aussi ailleurs dans le monde du travail ? Est-ce que tu crois que ça peut être lié, par exemple, aussi un changement de paradigme ? Est-ce que tu as une impression là-dessus ?
Alors, avant de parler du changement de paradigme, je pense qu'effectivement, il est vraiment présent et le burn-out, ou en tout cas le malaise que tu décris très bien, tout ça, c'est vraiment lié. C'est peut-être le premier point d'accès pour certaines personnes à ce nouveau paradigme. En tout cas, ça l'a été pour moi et ça l'est pour, bien sûr, pas mal de personnes qui viennent à moi, du coup. Mais je pense que c'est très révélateur de la manière dont on a fini par arriver à vivre, en fait. C'est la suite de tout un tas de décisions et de choix historico-économico-socialo-politico, etc., etc. Donc, la suite logique est guère importante, mais en tout cas, je pense qu'on est aujourd'hui à un moment d'existence où on sait très bien, très très bien, vivre pour l'extérieur et vivre... en fonction de ce qu'on a appris à l'école, en fonction de ce qu'on a appris des croyances de nos parents, des croyances de la société. On est des bonnes machines, comment on appelle ça
Des bons élèves.
Des bons élèves, voilà, on est des bons robots, on sait faire. Mais il y a un moment où l'automate se dit « Attends, stop là, je crois pas que ce soit ma nature d'être un automate en fait. Je crois que ma nature, c'est peut-être d'être autre chose. Mais c'est quoi en fait ce autre chose ?» Alors évidemment... L'entreprise n'est qu'un miroir de ce qu'on a dans notre vie à vivre, à dépasser, à comprendre. Donc tout ça va se rejouer en entreprise, mais jusqu'à présent, alors, et il y a encore pas mal d'accompagnants ou de personnes qui réfléchissent à ces sujets-là et qui réfléchissent de cette manière-là et qui se disent que c'est l'entreprise qui doit changer. Alors même si c'est certainement vrai, peut-être pas dans la mesure où on pense que ça doit être le cas. Je pense que le vrai changement, il va venir des gens. Je pense que personne ne nous oblige à subir ces choses-là. Personne ne nous oblige à être aussi stressé. Personne ne nous oblige à attendre cette reconnaissance de l'entreprise. Personne ne nous oblige à...
Et on se met la pression soi-même, alors.
Alors, on se met la pression soi-même, mais c'est surtout qu'on ne sait pas, je pense, s'occuper de soi. On n'arrive pas à revenir et à se dire, attends, est-ce que c'est la situation qui est importante ou est-ce que c'est la manière dont moi je la vis qui est importante ? Et pourquoi est-ce que je me retrouve systématiquement dans une situation avec des collègues qui me harcèlent ou avec un chef qui m'en demande plus ? On n'a pas tous la même manière de réagir par rapport à notre travail. Peu importe en fait l'entreprise ou le contexte dans lequel on va être, on va le reproduire si on s'en va et on va le reproduire même si l'entreprise évolue. Donc les questionnements, ils ne sont pas à avoir par rapport à l'extérieur, ils sont vraiment de revenir à nous. Et de revenir à, ok, pourquoi je bosse finalement ? Pourquoi est-ce que je m'enquiquine s'il y a des circonstances qui ne me conviennent pas ? Et est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre ? Parce que la vie, elle n'est pas si longue que ça après tout. Peut-être bien que j'ai envie de la vivre de manière un petit peu plus agréable. Souvent, les femmes que j'accompagne, et je pense que j'étais la première à avoir ce type de réflexion-là, on a tendance à vouloir se dire que bah, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je suis chef de projet, aujourd'hui je suis assistante de direction, peu importe ce qu'on fait, et demain je ferai quoi ? Le programme que je fais, il s'appelle Profession épanouie. Demain, t'es épanouie, demain t'es bien dans ta peau. Demain, c'est plus ton travail qui te définit, c'est toi-même qui est défini, qui rayonne, et qui, par conséquent, peut avoir une activité ou plusieurs activités, que sais-je, qui va du coup te nourrir, mais te nourrir dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment une transformation où on n'est plus dans « mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire ?» ou « qu'est-ce que je vais devenir ?» ou « qu'est-ce que je vais avoir comme titre ?» On est dans « comment est-ce que je vais me sentir ?»
S'écouter.
S'écouter, revenir à soi. Quand t'es bien avec toi-même, et ben forcément, t'as une place dans le monde. Alors c'est peut-être ça le nouveau paradigme, c'est qu'il nous est... Il ne nous est pas offert comme une punition, il nous est offert comme un cadeau avec un cocon, avec tout un tas de belles choses qui sont là juste pour qu'on les découvre et qu'on y aille. Ouh, chouette !
Parce que c'est vrai qu'on a peut-être aussi tendance à faire l'inverse, à se dire bah, « je vais travailler pour gagner ma vie, parce que j'ai des charges, j'ai une famille à charge justement, j'ai un loyer à payer, etc. » Et on a un second temps pour le plaisir, alors que finalement, on pourrait avoir un travail qui nous apporte complètement du plaisir, et être épanouie dedans.
C'est définitivement ce en quoi je crois et ce pourquoi je milite, même si je milite pas vraiment, mais c'est à ça en tout cas que j'ai envie d'inspirer le monde. Et je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de dire au monde en permanence, c'est que c'est tellement simple et on se complique tellement les choses. Revenons juste à ce qui est simple et à ce qui nous fait plaisir. On n'est pas venu sur Terre pour travailler, ça c'est sûr. La racine du mot travail, c'est quand même torture. Hein. Juste, je le rappelle entre parenthèses. Moi, j'ai pas vraiment envie d'être torturée à longueur de temps quand je pense qu'il y a tellement de choses chouettes à faire et agréables à vivre et à partager. On en parlait tout à l'heure en préambule et à vivre avec les autres et rire et s'amuser et jouer. Et il suffit de regarder les enfants, en fait. Souvent, je le dis par rapport aux ateliers du rire. Quand on regarde un enfant de 3 ans, il a toutes les recettes pour une vie heureuse. Il sait gérer ses émotions. Il sait les extérioriser quand il a une grosse colère. On l'entend pendant 5 minutes, mais après, il passe à autre chose. Et il n'est pas pollué là, par tout un tas de trucs qu'il ne sait pas gérer. Réapprenons, nous, adultes, à faire ça. Réapprenons à sortir de notre tête, aller vider un peu toutes les choses qu'on a mal vécues dans notre journée, ou voilà, pas forcément en criant sur les autres, surtout même en ne criant pas sur les autres, mais en se défoulant d'une autre manière, apprenons à re-rigoler et à mettre de la joie dans tout ça. Balou, il a toutes les recettes, hein. Il dit riez, sautez, dansez, chantez. Bon, moi je pense que quand on fait tout ça, on peut pas être malheureux. Il n'y a pas le travail là-dedans. J'aime beaucoup Balou, c'est mon plus grand maître, je pense.
Il y a aussi une chose que j'ai reprise sur ton site internet, que j'associe au fait qu'on aimerait trouver un équilibre entre ce que nous voulons et la réalité. Tu dis, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Il suffit de passer commande et de parler le langage de l'univers. Toi, tu appliques complètement ça dans ta vie.
Oui, j'essaye de parler l'univers. Je me suis rendu compte, je me faisais encore cette réflexion hier, que grâce à tout ce chemin que j'ai fait maintenant depuis, bon, on va dire depuis peut-être 4-5 ans maintenant, de revenir à moi. Alors évidemment, je reviens à l'énergie que j'avais quand j'étais enfant, à cette joie de vivre, à cette manière de plaisanter. Mais je reviens aussi à une manière beaucoup plus intuitive de vivre et à une manière d'écouter les signes de la vie qui peuvent se présenter un peu n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Et je me rends compte que j'avais ça quand j'étais plus jeune et que j'ai appris à faire taire cette petite voix au fur et à mesure des années et que maintenant, non seulement ça me fait plaisir de réapprendre à parler l'univers, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui se réjouit de presque de se réconcilier avec elle-même et de me dire « Ah mais oui, mais toutes ces fois où j'ai suivi mon intuition sans vraiment savoir que c'était une intuition ou que c'était un signe, eh ben c'était bien et c'était bon et c'était agréable. » Donc le langage de l'univers, oui, et j'essaye au plus possible, le plus possible, je crois que c'est plutôt comme ça qu'on dit d'ailleurs, eh ben de traduire ce langage-là et de l'expliquer aux gens. Parce que je découvre, on va dire, au quotidien des nouvelles manières de dire ou des nouvelles manières de penser ou des nouvelles manières de formuler. Les mots sont tellement importants. Souvent, on a tendance à penser aux événements qu'on aurait envie, mais la manière qu'on a de faire, alors, c'est qu'on va s'inquiéter que ce qu'on veut pas arrive, parce qu'on a vraiment envie de quelque chose, mais on va s'inquiéter de l'inverse.
Il faut inverser l'énergie.
En fait, quand on s'inquiète pour quelque chose, eh ben, on est dans cette énergie-là. On va envoyer là un message qui dit « Oh là là, oh mon Dieu, je veux pas ce truc-là ». Mais on y pense tellement que c'est ça qu'on attire, en fait, et que c'est ça qu'on... C'est comme si c'était ça notre commande. Donc des fois, il suffit juste de se dire « Attends, oui, alors, je veux pas cette situation-là, mais en fait, mais qu'est-ce que je veux ?» Et je crois que ça, c'est vraiment la question à laquelle on revient. Et si on réapprend à se la poser pour des grandes choses, on sait pas forcément se la poser pour le quotidien. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite? Et qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et qui j'ai envie de voir? Voilà, ça c'est des questions qui sont passées sous silence.
C'est revenir à soi, ouais, aussi.
Aux envies, parce que l'envie, ça veut bien dire qu'on est en vie. Du coup, je pense que c'est une des leçons clés pour parler avec l'univers, là, c'est parler de nos envies. Ce que j'ai découvert assez récemment aussi, c'est que si on dit par exemple « j'ai envie d'une belle voiture », mais qu'on est bourré de croyances et de pensées que cette voiture-là, finalement, on n'y a pas droit, parce qu'on a plein de sabotages internes. Donc la voiture, on a beau dire « j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie », si on le dit avec notre tête et que notre cœur et que nos émotions, elles envoient « oh mais non, mais n'importe quoi, mais jamais tu la mérites », c'est ça qu'on va avoir. Donc, c'est une manière mais super simple hein, de formuler autrement, c'est de se relier à ce qui nous fait plaisir. Donc il suffit de se dire « oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de me dire que je vais avoir une nouvelle voiture ?» Et là, tout de suite, on est super content même de la dire, la phrase. On ne sait pas par quel bout ça va arriver, on ne sait pas par quel coin de la Terre ou si elle va se mettre à voler vers nous. Mais on est beaucoup plus en train de se brancher à cette émotion-là et à cette joie de l'avoir, quoi, comme si on l'avait. Moi, je vous mets au défi de prononcer des phrases comme ça, avec toute la joie qu'elles impliquent, et de ne pas ressentir cette joie-là. Parce qu'automatiquement, on la sent, on la sent dans notre corps, on sent que nos joues, notre cœur, il s'ouvre. Enfin bon, c'est magique.
C'est attirer les choses avec le cœur. Et ce que tu dis aussi, ça me fait penser à une phrase de Marianne Williamson, qui dit « Quand on arrête de vouloir contrôler les événements, ils s'alignent selon un ordre naturel. » Nous sommes au repos et un pouvoir bien plus grand que le nôtre prend le relais et il fait un bien meilleur job que nous aurions pu faire. Et je crois que c'est ce qui te caractérise, Amel. Tu te laisses porter par l'univers.
C'est une des phrases qui me porte et souvent, je pense que le plus gros travail qu'on ait à faire en ce moment, et en même temps c'est le plus agréable, c'est d'apprendre à se laisser porter justement. Parce qu'on est tous capables de sentir que autour de nous, il y a une force, il y a quelque chose auquel on peut tous se relier et on peut tous sentir dans notre corps, dans nos tripes, dans notre cœur, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui fait que les arbres poussent, qu'il leur suffit d'un peu de lumière, un peu d'eau, et ils sont très heureux et ils donnent des belles pommes. Mais moi aussi, je suis un être de l'univers, je ne sais pas par quelle magie j'ai atterri sur cette planète-là, et je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'a posé là, et qui gère un petit peu les choses, et qui m'envoie des messages, et qui me porte, et qui m'encourage, et quand je demande de l'aide, mais j'en ai. Cette phrase-là, souvent, je la dis aux personnes que j'accompagne, et tout le temps, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on oublie de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand autour de nous, mais que quand on s'en souvient, c'est comme quelque chose de très 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 ancien qu'on sait et qu'on se rappelle à nous-mêmes, là, et du coup, on peut lâcher, là, se laisser porter.
Il y a moins de poids sur les épaules.
Ouais. C'est ça.
Jour de chance, pourtant le pari était fou. Quand on pense que Paris est encore à nous, la pluie danse, agitant ça et là, les loups qui frotteront ce dimanche la corde au cou. Je les observe du haut de mon petit nuage. Se méprennent et me rient au visage. Quoi qu'ils en sachent ou quoi qu'ils disent, j'habite en face du cul de l'église. Jour d'ivresse, pourtant le temps nous est compté. Quand on oublie le reste, on boit à leur moitié.
Santé.
La pluie cesse, réveillance est là. Des voix qui percent mes dimanches, chantant trop bas. Moi, je les écoute du haut de mon humble demeure. Qu'il en coûte ou quoi qu'il dise, j'habite en face du cul de l'église. Saint-Sulpice se met à chanter sur la place, les passants passent sans saisir ou bien s'en fiche ou s'en agace sans savoir qu'elle lance
un message à la reine.
Pluie d'électro,
rue de Paris 21e.
Itel,
iPhone,
iPad,
iPod,
iGénération, interface,
imagination,
Blackbird,
iFascination,
interrace l'école et cœur
sacré du Nord.
De Parisiens,
tête de chien, tête de con.
La grande capitale, les crocs affûtés au dîner de leur scandale. J'obtiens mon Paris, go passe, plaçant des frontières à ses quartiers. Caronica Agne sa place à l'aide d'une visa premier. Quoi que j'en fasse ou quoi que j'en dise, Paris m'appelle, Paris m'enlise. Quoi qu'il en fasse, mais pourvu
saloperie, ma déroute, arroser ma chemise. La ville au loin me dégoûte, mais en suivant ma route, elle m'a plutôt conquise. Quoi qu'il en coûte, pourquoi qu'il dise. Paris m'appelle, Paris m'enlise. Quoi qu'il en coûte, pourquoi qu'il dise. J'habite en face du cul-clé-glisse.
Justement, on va parler de ton accompagnement. Tu accompagnes notamment des femmes à développer une activité professionnelle épanouissante. Et lorsque je te lis sur Internet, je t'écoute avec tes vidéos... Et lorsqu'on parle maintenant, je sens que tu travailles beaucoup avec de la bienveillance, que tu es dans le cœur, tout simplement. Et tu as une grande capacité à insuffler de l'énergie et à aider les autres à voir les choses différemment. Et toujours avec la joie et de l'humour, enfin, c'est... qui te caractérise beaucoup. Et j'ai encore fait beaucoup de petites pêches sur ton site internet. Il y a une femme qui témoigne par rapport à ton accompagnement qui dit... Tu m'as fait l'effet d'une fée qui, de sa baguette magique à ses ordres, a transformé l'ombre en lumière. Voilà, je trouve ça très beau cette phrase et qui te convient très bien.
Merci beaucoup, merci, ça me touche. Mais oui, pourquoi ça devrait être difficile ? C'est un chemin. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du moment où j'ai décidé d'arrêter de me battre contre les autres. En fait, j'allais faire un lapsus et j'allais dire « j'ai arrêté de me battre contre moi, en fait. » Et je me suis battue, ou j'ai mis mon énergie pour moi. Je pense que c'est un changement qui est tout d'un coup, on n'a plus envie de se battre, et on n'a plus envie que ce soit difficile, et on a envie que ce soit agréable et facile. Et ça, je pense que c'est un très bel acte d'amour qu'on fait par rapport à nous-mêmes. Souvent, en faisant encore une fois appel à des choses qu'on a dans notre quotidien, on est tout à fait capable d'avoir... plein d'actes de pensée, de bienveillance, etc. pour nos amis. Et c'est super. Mais parfois, on oublie d'en avoir avec nous-mêmes. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que bah, apprenons à être notre propre meilleur ami. Parce que c'est avant tout nous-mêmes la personne la plus importante de notre vie. Avant nos parents, avant notre chérie, avant nos enfants, c'est nous. Si nous, on n'est pas capable de se donner tout cet amour-là et toute cette tout ce qu'on peut donner aux autres et qu'on a envie finalement de donner aux autres, eh ben on ne pourra rien donner aux autres. Et ça me fait penser à un autre truc qui est vraiment très important sur lequel je suis en train de mettre le doigt aussi, c'est que notre crise là et ce changement de paradigme, ça vraiment je l'ai vu chez toutes les personnes que j'accompagne. La crise qu'on vit, on dit que c'est une crise d'individualisme et d'égoïsme, etc. Mais en fait, moi je vois des gens qui ont envie de donner. Je vois des gens qui ont envie d'être et de rayonner pleinement qui ils sont et de partager et d'évoluer dans ces univers-là. Et ça, c'est beau. On peut dire que c'est une crise d'individualisme et d'égoïsme, mais en fait, l'égoïsme, c'est quoi ? L'égoïsme, c'est penser à soi. C'est pas quelque chose de négatif et quelque chose de néfaste. Si moi, je sais pas m'occuper de moi, je vais faire des dégâts. Parce que si je sais pas m'occuper de mes émotions et aller écouter mes besoins et aller reconnaître que là j'ai été touchée dans telle situation et que c'est pas l'autre qui est un enfoiré, c'est juste que l'autre là il m'a servi de miroir et ok c'est cool, merci l'autre, merci beaucoup, je vais regarder. Mais si on sait pas regarder, si on sait pas faire ce truc là vers l'intérieur, et ben on va aller reporter ça vers le voisin et que finalement on va entraîner des réactions en chaîne et que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et que c'est comme ça qu'on est en train de le transformer. Et je pense que ça ne doit pas être difficile et ça ne doit pas être douloureux. Et oui, j'aime bien donner plein d'amour à mes clientes parce que c'est ça dont on a besoin au final. On a tous besoin d'amour.
Qu'est-ce que tu aimes dans ton accompagnement ? Et pourquoi ?
Alors, je l'adore, mon accompagnement, ça c'est sûr. J'adore me sentir utile. J'adore sentir que, justement, tout ce que je viens d'expliquer, j'adore sentir que tout ce que moi, je sentais que j'avais envie de donner au monde, ça y est, je suis en train de le donner. Et j'adore sentir que, qu'il y a des gens qui l'attendaient, et il y a des gens qui peuvent aussi se mettre à donner à leur tour et à rayonner à leur tour. Mes séances sont de plus en plus des séances intuitives où je me laisse vraiment complètement guider et j'essaye d'être à disposition de la personne. Et de plus en plus, il y a des messages qui me viennent et des images. Et ça parle tout de suite au cœur de la personne et ça passe pas des fois par le mental. Les personnes qui viennent au départ pour un problème de burn-out, c'est très souvent qu'il y a aussi des problèmes dans leur relationnel et dans leur vie amoureuse. Et on peut évoquer tous ces sujets-là parce que la grosse transformation, c'est d'arrêter de considérer que le travail, c'est une partie de nous qu'il faudrait équilibrer avec d'autres parties de nous et des passions, et puis une vie familiale. Et si t'as pas de vie familiale, ta vie professionnelle, ça peut pas aller. Non, c'est pas ça. C'est nous, on est un tout. Et quand on aura réconcilié tous les aspects de nous et qu'on saura se prendre dans les bras et se dire mais qu'est-ce que t'as envie et comment tu te sens bien et qu'est-ce qui se passe là dans cet aspect-là de ta vie, tout ça sera en cohérence et on n'aura plus dans un coin la famille et dans un autre le travail et dans un autre chose.
Donc en fait, tu accompagnes les personnes aussi à s'aimer finalement.
Ben oui. Oui, c'est vrai que je ne le dis pas, mais je pense que ça fait, c'est la chose indispensable.
C'est un super cadeau.
Oui. Et oui, en fait, le programme que j'ai lancé, il s'est construit de manière très intuitive, mais je réfléchis maintenant que j'ai fait plein d'accompagnements au titre qui s'appelle « Profession 2. épanouie ». C'est comme si c'était à la fois un aboutissement et à la fois simplement le début de quelque chose, en fait. C'est l'épanouissement qui va faire que chacun aura retrouvé son chemin.
Alors en fait, tu impulses un nouveau départ en t'adressant au cœur de la personne. Ce qui ne veut pas forcément dire que pendant que tu accompagnes, les personnes auraient tout de suite changé de voie et auraient tout de suite trouvé un nouveau travail. C'est vraiment une impulsion. Les choses viennent par la suite. Qu'est-ce que tu vois comme résultat avec les personnes que tu accompagnes ?
Oh là, je vois des résultats très rapides et très divers. Parce que chacun a son chemin, c'est le principe de base. Mais à partir du moment où les quelques clés sont comprises et à partir du moment où on travaille vraiment sur les points de blocage précis de la personne, c'est comme si y avait un gros caillou là, qui bloquait la rivière et qui l'empêchait de couler. Quand on enlève le caillou, ça y est, ça coule. Et du coup, y a tout qui se passe en même temps, donc à la fois il y a des changements dans leur vie perso, dans leur vie pro. Vraiment, ça dépend de chacune. Je vois des personnes qui en quelques temps savent tout de suite ce qu'elles vont vouloir faire, d'autres qui mettent un petit peu plus de temps à identifier le domaine parce qu'il y a vraiment peut-être plus de blocages à appréhender, d'autres qui ça y est se lancent. Mais je vois le point commun, vraiment je pense que c'est des personnes qui reviennent à écouter leur cœur. Voilà, ça c'est qui reviennent à des choses beaucoup plus essentielles et réaliser que ça ne doit pas nécessairement être difficile, quoi, encore une fois. Oui, c'est des questions, beaucoup de questions qui arrivent. Et puis des retrouvailles. Le mot qui me vient, c'est des retrouvailles avec soi-même. Parce que je pense qu'on a toujours su, on sait qui on est. On sait qu'on est venu là pour quelque chose. On l'a juste oublié, quoi. Vraiment créer sa vie à partir du cœur.
Tu accompagnes les femmes ? Pourquoi que les femmes ?
Ah là là, c'est une grande question. Déjà parce que j'en suis une. Je pense que c'est vraiment la clé. Je ne vais pas refuser d'accompagner des hommes. Je vais échanger avec eux et s'ils se sentent portés par ce que je propose comme programme, évidemment, ils seront les bienvenus. Mais il y a dans l'accompagnement que je fais... comme des messages ou des compréhensions qui se font plus de femme à femme. Je pense qu'on a ce fameux nouveau paradigme dont tu parlais tout à l'heure, s'il est très féminin, il y a une reconnexion à notre essence, à notre puissance divine et sacrée, et il y a tout un univers presque un peu mystérieux où pour l'instant, ça reste un point d'interrogation, mais pour l'instant, c'est les femmes que j'ai envie d'accompagner.
J'imagine qu'on accompagne, que tu accompagnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi comme toi un parcours de changement de vie, qui se disent « je veux devenir thérapeute, je veux devenir coach, je veux accompagner les gens à créer leur vie, à s'ouvrir à elles-mêmes ». Et c'est très féminin en même temps. On est dans cette énergie féminine qui nous pousse à nous connecter à nous-mêmes, à notre sensibilité, etc. Et peut-être impulser les femmes, les hommes vont suivre.
Les hommes suivent, ça c'est sûr. Pour l'instant, ils suivent différemment.
Elles ouvrent la voie.
C'est possible. Je pense que les hommes, ils ont pas la même manière d'appréhender ce changement-là. Je pense que nous, les femmes, on a vraiment à se réapproprier un certain nombre de choses.
On les invite à se reconnecter à leur part féminine aussi, peut-être.
Tout à fait. Je pense que nous voir aussi, autant dans notre authenticité, dans notre vérité, ça a beau être fait dans la douceur et dans la bienveillance, c'est une transformation totale, quoi. C'est vraiment, on tombe les masques et on arrête d'être dans l'avoir ou dans le faire et on arrive dans l'être et dans l'authenticité. Qu'il n'y a plus de voile, ça y est, c'est fini. Donc pour eux, je pense que c'est forcément aussi très fort d'être face à ça, en fait. Et d'intégrer ces transformations et d'intégrer en eux. Mais pour l'instant, je pense que ça se fait plus à l'intérieur d'eux-mêmes.
Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui ne sont pas forcément satisfaites de leur activité ou même de leur vie? Quelle est la clé de son propre épanouissement, finalement? On l'a abordé un petit peu au cours de cette interview. Mais pour résumer, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos auditeurs?
Alors, la première chose à dire et à répéter et à s'écrire et à écouter, bah oui, forcément, ce serait que c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, par conséquent, eh ben, c'est quoi tout ce qu'on veut, en fait? En enlevant toutes les croyances, tous les « mais oui, mais c'est pas possible, mais quand même, il faut quand même que je gagne ma vie », ça, il faut le mettre de côté pendant un temps, parce que c'est un dialogue interne qui ne sert à rien. On a appris à réfléchir avec notre mental et à donner à notre raisonnement la place de gouvernail de nos vies, alors que ce n'est pas du tout sa fonction. Le gouvernail, c'est notre cœur, c'est nos envies. Le gouvernail, c'est nos émotions aussi, c'est nos intuitions, c'est nos pulsions de vie. C'est ces endroits-là qui doivent décider. Donc si ces endroits-là vous envoient le message que grrr, ça grince et ça va pas et ça coince et ça va, eh ben demandez-leur, mais il ne faut pas inviter la tête à la discussion. Et si tout ce qui pourrait poser problème n'était pas un problème? Voilà, c'est de reformuler les choses de cette manière-là. Et si j'avais pas toutes ces choses-là qui me bloquent, en général c'est l'argent, au moins de savoir ce dont on a envie. Je pense que c'est vraiment la question qu'on oublie de se poser. Et si c'est trop difficile de savoir dans le long terme, on peut commencer à se la poser pour le court terme. Et quand on sent le oh, « ah oui, ça oui », eh ben on fonce. Parce qu'en faisant ça, on remplit son cœur. Et on se fait du bien. Et on se donne de l'amour. Comme une amie, en fait.
Merci beaucoup, Amel, pour ce bel échange et tous ces beaux conseils. On invite les auditeurs à mettre en pratique pour leur vie.
Eh ben merci beaucoup, beaucoup Anne-Claire. C'était un moment très agréable. Évidemment que j'appréhendais un petit peu. Mais c'est toujours un plaisir de partager cette histoire déjà. Et puis de penser à toutes les personnes qui vont écouter qui vont en profiter. Et de se dire que voilà, là, on était au bon endroit toutes les deux et on a fait quelque chose, On leur a fait un beau cadeau et c'est chouette.
Blessed we are to dance on this ground with the rhythm of sound.